Donc voilà, Galates 5, les versets 13 à 26. Et je vais juste prier avant de parler. Père Céleste, merci pour mes frères et sœurs rassemblés ce matin. Merci pour l'encouragement que c'est de voir les frères et sœurs qui persévèrent dans la foi. Merci aussi pour ce temps d'étude, d'enseignement, de prédication. Je te prie de me soutenir par ton Esprit Saint, de permettre que je puisse être un bon porte-parole, fidèle, que chacun puisse repartir encouragé. Tu connais nos défis, tu connais nos joies, nos peines peut-être, les distractions, la fatigue, tout ce qui pourrait nous empêcher de bien écouter ta parole. Dans ta grâce, Père, aide-nous à être attentifs ce matin et permets qu'on puisse la mettre en pratique par ton esprit. Je te prie aussi de venir à mon secours ce matin, étant dans la faiblesse, que tu glorifies ton nom, Père. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc Galates 5, versets 13 à 26. Un rappeur français, je ne sais pas si vous avez écouté du rap. Moi, j'aime bien le rap. Ça va, vous m'entendez? Ouais. Ok. A écrit une chanson en 2015. C'est une chanson de rap qui est chouette. Malheureusement, les paroles ne sont pas à la gloire de Dieu. Donc, je ne la recommande pas forcément, mais le titre s'intitule « On verra bien ». Et le message qui ressort de cette musique, c'est un peu ce que les gens pensent de la liberté aujourd'hui. On se pose des questions, on admet que le monde va mal, mais on n'a pas de réponse. Alors on vit selon nos désirs, jour après jour. Et d'un côté, on peut comprendre ça. Et beaucoup de gens, n'est-ce pas, croient que c'est ça la liberté. Faire ce qu'on veut, et puis on verra bien. C'est l'équivalent de cette phrase « mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Et donc la dernière fois, on a déjà parlé avec Steve de liberté, et on a vu dans les premiers versets du chapitre 5 que Paul communique que nous avons été rendus libres grâce à Jésus. Et nous devons en fait surtout pas nous remettre sous l'esclavage. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble ce qu'est la vraie liberté. Personnellement, ça m'a fait du bien de me rappeler ça. Peut-être que vous allez être surpris. Et on va voir qu'être vraiment libre, c'est marcher par l'esprit, en se rappelant notre identité. Et donc, premier point, vraiment libre. On va juste relire les versets 13 à 15 ensemble. Mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement que cette liberté ne devienne pas un prétexte pour la chair. Par amour, faites-vous plutôt esclaves les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Et donc on va essayer de faire une définition de la vraie liberté. D'abord, ce qu'elle n'est pas, elle n'est pas un prétexte pour vivre selon la chair. Donc la vraie liberté n'est pas l'élimination de toute contrainte pour faire tout ce qu'on veut. La liberté n'est pas un prétexte pour vivre selon la chair. On a déjà défini ce qu'est la chair avec Benjamin l'autre fois, on va juste le rappeler. La chair, c'est la nature pécheresse qui habite l'être humain, qui nous habite tous. C'est notre mauvaise nature, c'est le côté obscur de la force. Elle nous pousse à adopter un mode de vie qui appartient à ce monde. Et elle nous pousse à nous rebeller contre Dieu. Et donc la chair est semblable à un ancien coach de foot, hein, je reprends l'exemple de Benjamin, un ancien coach de foot qui n'est plus en fait du coup notre coach. En tant que joueur de foot, par exemple, on a changé d'équipe, on est passé d'une équipe à une autre, Et la chair, c'est un peu comme notre ancien coach qui crie et qui veut se faire reconnaître dans notre cœur. Et on ne doit pas l'écouter, en fait. On n'appartient plus à ce coach. Il n'a plus d'autorité sur nous. En tout cas, il ne doit plus en avoir. Donc voici quelques exemples de situations où la liberté devient un prétexte pour vivre selon la chair. Parce que telle personne est mon frère en Christ, parce qu'il est sympa, je me permets en fait de m'énerver contre lui. Après tout, c'est mon frère, donc je peux y dire tout ce que je veux. C'est légitime qu'il me voit comme ça. Ou peut-être que nous nous croyons trop libres parfois et que nous nous permettons d'être médisants vis-à-vis d'un frère ou une sœur, de dire du mal dans son dos. Un autre exemple, un écrivain américain disait qu'une personne qu'il connaît s'est même défendue de regarder de la pornographie en faisant appel à sa liberté. Donc voilà, si nous tombons dans ce péché-là, sachant que Dieu peut nous relever, parlons-en aux personnes adéquates, mais que la liberté ne soit pas un prétexte pour faire n'importe quoi. Et donc, par amour, verset 13, faites-vous plutôt esclaves les uns des autres. Nous ne sommes plus sous la loi en tant que chrétiens, mais cela ne signifie pas que nous n'avons plus d'obligation morale. Nous devons, par amour, se faire esclaves les uns des autres. Et donc la vraie liberté se caractérise par le fait de servir les autres, par le fait d'aimer les autres. La liberté nous permet d'accomplir la loi et donc de ne pas s'autodétruire. Versets 14 et 15. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Et donc, quand nous sommes attentifs aux besoins de nos frères et sœurs en Christ, ceux de notre assemblée notamment, nous accomplissons en fait l'objectif de la loi de l'Ancien Testament. Et donc on voit que l'amour ne contourne pas les normes morales de Dieu, de la loi de Dieu. L'amour transcende les normes morales de la loi. Et donc, en tant que chrétien, on peut tous se demander comment puis-je servir le corps de Christ dans cette église à Woluwe ? Que puis-je faire pour aider les autres à mûrir spirituellement ? Ou que puis-je faire pour présenter la foi en Jésus-Christ à quelqu'un ? Donc la liberté, c'est de servir les autres et de les aimer. Et si nous nous disons, ça n'a pas l'air d'être ça, la liberté, ça ressemble en fait à de l'esclavage. Alors nous ignorons ce qu'est la vraie liberté. Et nous sommes encore esclaves de nos propres désirs égoïstes. Et verset 15, si nous sommes esclaves de nos désirs égoïstes, nous risquons de nous comporter comme des animaux. Nous risquons de blesser les autres en les mordant et en les dévorant. Alors vous me dites si cette information est correcte ou pas, si vous avez un chien. En tout cas, moi j'ai souvent entendu ça, mais quand un chien mange, il faut le laisser un peu tranquille. Il ne faut pas y caresser la tête. Je crois qu'on me disait ça quand j'étais enfant. Et donc, on le laisse tranquille quand il mange. Parce qu'il pourrait nous attaquer, devenir agressif si on le dérange. Et c'est un peu le cas pour nous, si on se laisse guider par la chair. Nous pouvons être tellement préoccupés par l'accomplissement de nos désirs égoïstes et devenir en fait insensibles aux autres, devenir égoïstes et les blesser. et de tels comportements engendrent la haine. Et la haine est susceptible de détruire n'importe quelle relation, n'est-ce pas ? N'importe quelle assemblée. De tels comportements mettent à mal l'amour fraternel qu'on est censé vivre entre nous. Donc voilà pourquoi Paul nous met en garde ici. Nous devons prendre garde à ne pas nous détruire les uns les autres. La haine doit donc être réprimée. Pourquoi ? Parce que nous devons plutôt marcher par l'esprit. Et ça, c'est notre deuxième point, versets 16 à 26. Verset 16, je dis plutôt, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Donc marcher par l'esprit veut dire que nous n'accomplissons jamais les désirs de la chair. Il est fort ce mot, jamais. Le mot marcher met en évidence le fait que nous dépendons de Dieu par son esprit, jour après jour, pas après pas. Et donc nous sommes appelés à marcher par l'esprit, mais voyons aussi que Paul ici s'adresse à une communauté. Donc on n'est pas appelé à marcher tout seul par l'esprit, mais à marcher ensemble, dans l'amour, les uns pour les autres. Et on va juste voir cela. En fait, dans notre texte, l'expression « les uns et les autres », elle revient cinq fois. Elle revient cinq fois. Il y a une dimension communautaire, on la voit au verset 13. Par amour, faites-vous plutôt esclaves les uns des autres. Regardons ensemble, on la voit aussi deux fois au verset 15. Mais si vous vous mordez, si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. On la voit aussi deux fois au verset 26. Ne devenons pas vaniteux, cessons de nous provoquer les uns les autres, de nous porter envie les uns aux autres. Et donc, ce n'est pas facile, n'est-ce pas, de vivre en relation les uns avec les autres. Et vivre par l'esprit n'est pas chose facile. Nous sommes continuellement harcelés par les tentations, mais l'esprit nous est donné pour combattre ces tentations. On voit ça au verset 17. Et donc on a vu les fois passées que la loi en fait pointe du doigt le péché, mais sans offrir de solution. Elle met l'être humain mal à l'aise devant Dieu. Jonathan avait utilisé l'image d'un scanner qui montre un os cassé, ok, mais qui ne propose pas de solution. Mais on va voir qu'avec l'esprit, c'est différent, verset 18. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Donc si nous sommes conduits par l'esprit, nous ne sommes plus mal à l'aise devant Dieu. Nous sommes ses enfants. Nous ne vivons plus sous la tyrannie du péché et de la loi qui nous pointe du doigt, mais l'esprit nous vient en aide pour résister aux œuvres de la chair. Elles sont manifestes, ces œuvres de la chair, elles sont évidentes. Regardons les versets 20 et 21. Idolâtrie, sorcellerie, hostilité, dispute, passion jalouse, fureur, ambition personnelle, division, dissension, envie, beuverie, orgie et autres choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et on voit ici que Paul est particulièrement préoccupé par ces péchés dans les relations qui déchirent l'Église de Dieu. Et donc soyons avertis, chers amis, ceux qui s'adonnent au péché de cette manière n'hériteront pas du royaume de Dieu. Malheureusement, même en tant que chrétiens, il nous arrive de pécher et nous chutons tous encore de bien des manières. Il peut nous arriver d'être idolâtres, d'être jaloux, d'être furieux, mais cela n'est pas ce qui caractérise le chrétien. Si nous pratiquons l'un des péchés que Paul mentionne, repentons-nous, c'est-à-dire demandons pardon à Dieu et changeons radicalement d'attitude. Il se peut aussi parfois que nous devions demander pardon aux autres, pas toujours, mais dans certaines situations, oui. Donc voici juste un exemple fictif pour montrer ça. Bertrand est un chrétien engagé dans l'église locale. Il est marié avec Véronique et ils ont 4 enfants. Et pour justifier ses mauvaises réactions, Bertrand se dit soupaulé. Quand il a beaucoup d'activités dans son agenda, et on comprend, c'est pas évident quand on a l'impression d'avoir un agenda bien rempli, en fait, lui, il devient agressif, furieux, envers sa femme, envers ses enfants. Et ces derniers temps, Bertrand s'énerve toutes les semaines. Il les agresse alors qu'en fait, ils lui ont rien fait de mal. Bertrand devrait demander pardon à Dieu et aussi demander pardon à ses proches pour une telle attitude et veiller à ne pas recommencer. Et donc, il ne devrait pas justifier cette attitude en classant son caractère dans une certaine catégorie, même si on a tous des caractères différents. Et donc, plutôt que d'avoir ce type de comportement, nous sommes appelés à vivre par l'Esprit, versets 22 et 23. Quant au fruit de l'Esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses. Et donc, est-ce que ce fruit vient de l'être humain? Non, il vient de l'esprit. Et donc, on ne devrait pas être en train de rechercher ces choses en nous-mêmes, c'est peine perdue. Le fait que nous marchions par l'esprit devrait se voir dans nos relations. On va juste relire le fruit de l'esprit ensemble pour se faire envie et aspirer à vivre ces choses. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Et donc, on est appelé à vivre par l'esprit, on est appelé à vivre ces choses, à expérimenter ces vertus, en se rappelant notre identité, en ayant les yeux tournés vers Christ, versets 24 à 26. C'est notre troisième point. Mais ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne devenons pas vaniteux et cessons de nous provoquer les uns les autres, de nous porter envie les uns aux autres. Et ce n'est pas parce que nous avons encore des mauvais désirs, et c'est le cas de nous tous, que nous ne sommes pas chrétiens. Ces désirs ne constituent pas notre identité. Rappelons-nous l'histoire de l'entraîneur. On a changé d'équipe, on n'est plus dans l'équipe de cet entraîneur qui nous parle. Il n'a plus d'autorité sur nous. Pourquoi ? Parce que la chair a reçu un coup mortel à la croix. Et être dominé par la chair n'est absolument pas quelque chose de normal pour le croyant. Et la vie en Jésus-Christ, on l'a vu un peu avant dans notre livre, elle a commencé par l'Esprit, et elle doit donc continuer par l'Esprit. Je relis le verset 3 du chapitre 3. Êtes-vous donc stupide à ce point ? Après avoir commencé par l'esprit, allez-vous maintenant achever par la chair ? Non. On a commencé à marcher par la foi en Christ. Et donc, il faut continuer. Et c'est aussi ça, marcher par l'esprit. Donc, continuons, chers amis, chers frères et sœurs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Plaçons notre confiance dans l'œuvre de salut du Christ. Ça, c'est ce qu'on a fait au début. Et c'est ce qu'on continue à faire jour après jour dans notre vie chrétienne, se confier en Dieu. Et quand nous marchons par l'Esprit, en fait, on mettra en pratique le verset 26. Nous ne serons pas vaniteux. Nous ne provoquerons pas les autres. Nous n'envierons pas les autres. Pour conclure, on va juste récapituler ensemble. Jésus-Christ nous a libérés de la tyrannie du péché et de la loi. Mais cela n'est pas un prétexte pour vivre selon la chair. Cela n'est pas un prétexte pour vivre selon nos désirs égoïstes. Ne faisons donc pas n'importe quoi au nom de la liberté. On vit dans un monde où parfois les gens se permettent de faire n'importe quoi au nom de la liberté. La vraie liberté nous pousse à s'aimer les uns les autres. La vraie liberté nous permet d'accomplir la loi et de ne pas s'autodétruire. La haine doit donc être réprimée. Marchons ensemble par l'esprit pour combattre les désirs de la chair. Et n'oublions pas que nous sommes appelés à continuer à vivre comme nous avons commencé, dans la foi en Christ, dans la confiance en Dieu, dans la foi au sacrifice de Christ. Et remercions Dieu pour son esprit en nous, qui est victorieux sur les désirs de la chair, qui nous permet de les réprimer et de ne pas chuter constamment. Ce n'est pas 50-50, ce n'est pas esprit et chair. L'esprit est plus puissant que la chair en nous. Et rappelons-nous qu'être vraiment libre, c'est marcher par l'esprit en se rappelant notre identité. Amen. Je vais juste prier pour conclure. Père Céleste, tu connais nos pensées, tu connais nos cœurs. Nous te demandons pardon si parfois on a l'impression d'être bien loin du compte et de ne pas vivre le fruit de l'esprit. On est conscient que la force n'est pas en nous-mêmes. Aide-nous, apprends-nous à dépendre de ton Esprit Saint, à vivre jour après jour en marchant par lui, s'il te plaît. Qu'on puisse ressortir encouragé, Seigneur, sachant que ton Esprit Saint est en nous, qu'il est plus fort que la chair, qu'il nous éduque. Merci, Seigneur, pour le privilège d'être à ton service, Seigneur. Merci de nous transformer de gloire en gloire. Bénis nos relations en tant qu'Église, en tant que frères et sœurs. Aide-nous à nous aimer les uns les autres, à être courageux pour agir pour le bien des autres et que toute la gloire te revienne. Merci pour Christ qui nous permet de faire ça ultimement, qui nous a rachetés de notre mauvaise manière d'agir. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.